ça compte avec Éric Auziel.
Comment ça va, Éric?
Toujours très bien, mon ami, toujours très bien. Puis j'espère que t'es rassuré, là. Ton petit Louis, il a fini quatrième. T'es content, là? Hey. Hein, George l'a laissé passer, tout s'est bien passé.
Éric qui disait que Pépin Louis était plus capable, qu'il avait perdu. Et Pépin Louis part 17e, fini devant George Russell au quatrième rang. Quelle course! Mais Charles Leclerc, je sais pas si tu as regardé la course, Éric, là.
Ouais.
Charles qui était débiné complètement, qui aurait vraiment aimé que Carlos l'emporte pour sa dernière avec Ferrari. Et par le fait même, lui qui remonte troisième, ça aurait donné le championnat des constructeurs à Ferrari également. Il avait l'air complètement débiné à la fin de la course, là, pour pas dire d'autre chose. Mais ça a été une formidable saison.
Tu l'as vu célébrer dans son auto quand il a dit P8, wouhou!
Ouais, exactement. C'était quelque chose. Et Pierre Gasly, là, on n'en parle pas assez, mais Pierre Gasly qui connaît probablement ses meilleurs moments en carrière présentement avec Alpine. J'ai hâte de le voir l'an prochain. Tu sais, là, on avait la recrue Jack Doohan qui a remplacé Esteban Ocon. Un autre là, qui s'est fait traiter à la Rangers de New York là, pour sa dernière course. Lui qui a amené la seule victoire de Alpine depuis le fameux rebrand là, de Renault vers Alpine. Traité complètement injustement, malheureusement. Mais on verra l'an prochain. Il va avoir une petite dent contre eux autres l'an prochain chez Haas. Ça va être une saison. Ça a été une très, très belle saison. Malgré qu'il y a du monde qui pensait que c'était fini, très très tôt, c'était pas le cas. Et finalement, ben, l'an prochain, je pense qu'on aura une saison complètement exceptionnelle, encore une fois, avec tout plein de recrues qui seront derrière le volant de plusieurs voitures et Lewis chez Ferrari aussi.
Bien dit, bien dit.
Et Liam Lawson qui s'en va chez Red Bull. Je vous l'annonce, là, Checo Perez reste pas là l'année prochaine. Il a même pas fait un tour, encore une fois, cette semaine. Markov. Toi, tu penses que on mérite d'avoir une conversation autour de retirer son chandail?
OK. D'emblée, là, quand j'ai vu Markov hier, puis que j'ai su qu'il était à Montréal cette semaine, ma réflexion, c'est bon, où est sa place parmi les légendes du Canadien? Quand je parle de légendes, c'est des joueurs qui ont joué quand même un certain nombre de matchs, qui ont eu un impact sur l'équipe. Puis d'emblée, là, je ne m'étais pas dit, Markov, son chandail devrait être retiré. Là, j'ai regardé ça attentivement, puis j'ai regardé les chandails retirés, puis j'en suis venu à la conclusion, c'est la mienne, là, puis c'est pas la science infuse, puis c'est pas une affirmation. Moi, je pense que Markov, on devrait retirer son chandail, puis je m'explique. Il y a 15 joueurs qui ont leur chandail retiré, il y a 19 numéros, mais il y a des joueurs qui avaient le même numéro. Il y a quatre défenseurs, je pense, là-dedans. Et quand je regarde la carrière de Markov, le nombre de points qu'il a accumulé, mais la façon qu'il s'est comporté sur la glace tout le long de sa carrière, 990 matchs qu'on t'a dit, il a rendu tout le monde autour de lui meilleur. Rappelez-vous, pour ceux qui sont pas trop jeunes, quand il a joué avec Mike Komisarek, ce qui lui a permis d'aller chercher un gros contrat avec les Maple Leafs de Toronto, et puis il a jamais pu être le même après. Mais avec Markov, il était très bon Komisarek.
Ben oui.
Et il y en a eu d'autres aussi. Puis on le sait qu'il a été très près de Subban et il a été très, très, très dur et exigeant avec Subban. C'est le seul qui était capable de dire dans la face, « Hey, man, c'est pas ça que le coach a demandé entre les périodes. » Il lui disait, « C'est pas ça que le coach joue la game et joue ce qu'on demande de la part du coach. » Tu comprends que des fois, Subban voulait en faire trop. Fait qu'il y avait vraiment une bonne influence sur Subban. Moi, je pense qu'on devrait retirer son chandail. Puis, dans tous les chandails retirés, des joueurs retirés, ce ne sont que des joueurs canadiens. Ce serait le premier joueur non canadien ou non nord-américain qui serait retiré. Je pense qu'il est temps qu'on fasse ça aussi. Pour moi, tu sais, je retirerais pas le chandail de Saku Koivu, même s'il a eu une belle carrière. Je retirerais celui de Markov et le seul autre que je retirerais, c'est celui de Carey Price. Là, je veux pas lancer un débat, là, parce que je sais que ça va pas l'arriver. Moi, je pense que Price mérite éventuellement d'avoir son chandail retiré. Weber le mérite pas. Je te ferai remarquer que Carbonneau, son chandail n'est pas retiré, mais il est au temple de la renommée. Mais dans le cas de Markov, le nombre de points accumulés, il était vraiment bon. Puis dans votre sondage, Olivier, que vous faites, là, je suis d'accord avec les auditeurs. Autant je suis un admirateur fini de chez Weber, autant je pense qu'André Markov est un meilleur défenseur que chez Weber.
De chez Weber et de Piquet Subban également. Puis tu as parlé de son. Tu as parlé de l'influence qu'il y a eu sur des carrières, sur la carrière de Komisarek, sur la carrière aussi de Piquet. On se rappelle leur relation. Au début, on pensait que les deux s'entendaient pas bien de par leur personnalité. C'est une personnalité très flamboyante. Mais l'impression que Piquet a eu aussi une petite influence sur la carrière sur glace, mais la personnalité d'André Markov. Souvenons-nous du fameux bisou sur la joue. Des moments comme ça que Markov a donné aux Canadiens. On se souviendra aussi de son passage. Puis Patrick Friolet qui s'en vient tantôt, là, dans à peu près 30 minutes, va pouvoir nous parler de ce moment-là parce qu'on lui a demandé dans le vestiaire c'était quoi de jouer avec Tom Gilbert, André Markov. Et Markov avait répondu à. Et Pat Friolet lui a dit c'est un processus. Il dit yeah, it's a process.
Mais tu sais, Markov, qui lui a nuit au niveau de la popularité puis de l'engouement qu'on pourrait avoir pour retirer son chandail, c'est un solitaire, une personnalité introvertie. Nombre de fois, j'ai des gens de mon entourage qui m'ont dit « Hey, après le match, j'ai vu Markov dans un restaurant, tout seul dans un coin. » Souvent, il allait manger tout seul après les matchs au Centre Bell le samedi ou en semaine. C'était un gars vraiment solitaire, qui avait pas beaucoup d'amis. On l'a vu. T'sais, il aurait pu être présenté sur la glace. Ils ont dû négocier avec lui pour au moins le présenter à la foule alors qu'il était assis. Fait que c'est un type de personnalité qui, je te dirais, n'est pas commun maintenant avec la nouvelle génération des athlètes. Ouais. T'sais, mais n'empêche que ceux qui l'ont vu jouer, là, c'est juste que malheureusement, Markov est passé à Montréal alors qu'on n'avait pas des très bonnes équipes.
Mais il n'y a pas juste ça, Éric, puis on va terminer la discussion sur Markov là-dessus parce que tu as d'autres points vraiment intéressants que je veux qu'on jase avant de te laisser aller. Je peux pas croire qu'on n'a pas eu le cran ou l'humanité, décris ça comme tu veux, là, de lui donner 10 autres matchs avec le Canadien.
Mais ça c'est Marc Bergevin qui, c'est la business. C'est de la business. Quand tu signes ton nom sur un contrat là, comme joueur, c'est terminé l'humanité. C'est terminé le respect. C'est de la business. Et on le voit dans presque tous les sports maintenant. Tu l'as parlé. Tu en as parlé au niveau de Ocon. Tu en as parlé avec Barkley Goodrow et Trouba. Puis il y a plein d'exemples comme ça. C'était injuste, ingrat. Markov avait ralenti un petit peu. Il y avait eu plusieurs blessures. Markov a peut-être fait une erreur stratégique. Il avait pas voulu prendre un agent. Il demandait peut-être plus. Il voulait négocier lui-même. Peut-être qu'il se disait, je vais l'avoir, ce que je veux. C'est pas chic. Je suis d'accord avec toi. C'est pas chic. C'est de la business. Puis on peut reprocher bien des choses à Marc Bergevin, mais quand tu regardes ailleurs dans la Ligue, c'est pas juste à Montréal que ça s'est fait, ça.
Ouais, il y a Marc sur la messagerie texte qui dit, on devrait y offrir maintenant. Il avait l'air en forme, là. Viens donc jouer du game, là. Ça va être correct.
Je pense que ça va être correct.
C'est une farce.
Ça reste un chiffre, hein? Oui, c'est bien, 1000, c'est bien. Mais 990, c'est quand même beaucoup avec la même équipe, là. Avec la même équipe.
Pendant ce temps-là, il y en a un hier aussi, là. Je te dis, il faut le souligner, là. Andrzej Kopitar, 1400 matchs dans la Ligue nationale. C'est quand même assez solide.
Mais tu sais, comme je t'ai dit, je l'ai été le voir cette semaine. Il est là de toutes les mises au jeu importantes. Il est là dans toutes les situations importantes. Puis il est vraiment très bon. Il triche pas, ce gars-là, là. Kopitar, il triche pas. Et wow! Tout un joueur de hockey. Ça, c'est un vrai joueur de hockey.
Je vais poser la question à Richard Labbé tantôt, dans une heure d'ailleurs. Là. Lui qui a souvent relancé ce débat-là, mais Price ou Kopitar? Bref, ça, c'est une question pour plus tard. Et je viens de faire réveiller FX.
Bon. Tu parles de carrière, t'es obligé d'aller avec Kopitar.
Ouais.
T'as pas le choix. C'est la même année de repêchage. T'as pas le choix d'aller avec Kopitar. Ça n'enlève rien à Carey Price. Viens te le dire, je retirerai son chandail et je le mets au temps pour la renommée. Mais tu sais, Kopitar, il est dans une autre sphère. Là.
Effectivement.
Il est dans une autre sphère.
Est-ce qu'il
y a de la durabilité?
Tkachuk, un peu comme Piquet Subban, dans laquelle il y a une clause de non-mouvement qui s'active l'an prochain. Il reste encore 3 ans et demi de contrat. Il y a eu certaines rumeurs qui ont été démenties tout de suite par les sénateurs d'Ottawa, mais qui sont sorties à New York comme quoi que les Rangers voulaient aller chercher Brady Tkachuk. Probablement que, à l'image de son frère, veut-il jouer aux États-Unis? Voyons, mais toi, tu penses qu'il pourrait bouger d'ici la fin de la saison?
Moi, je pense qu'il va bouger. Parce que sur papier, là, il est repêché par les sénateurs d'Ottawa. Sur papier, il veut gagner avec les sénateurs d'Ottawa. Sur papier, les sénateurs d'Ottawa veulent le garder parce qu'il a encore 3 ans et demi. Il est dans la 4e année d'un contrat de 7 ans à 8,2 millions par année. Sur papier, les partisans le veulent. Sur papier, il triche pas. Sur la glace, il triche pas. Il y a un doute qui s'est installé quand les rumeurs ont commencé qu'il y avait des équipes qui étaient intéressées à lui. Son entourage doit lui dire, écoute, tu gagneras jamais avec cette équipe-là. Okay? Tu gagneras jamais avec cette organisation-là. Tu as 25 ans, c'est ton moment, c'est là. Moi, je pense qu'il va bouger cette année. Les sénateurs se font rassurants, disent non, on pense qu'on va trouver une façon de s'entendre, d'allonger son contrat. Je pense qu'il va bouger avant la date limite des transactions, à moins que les sénateurs nous surprennent et commencent à gagner régulièrement et soient vraiment dans une position pour s'assurer d'une place en série, puis qu'ils ont un momentum. Moi, je pense qu'on va le bouger parce qu'on voit qu'à long terme, il ne voudra pas rester.
Là, les sénateurs jouent pour 500, 26 points en 26 matchs, sont loin de la Coupe aux Lièvres, comme on dit, dans l'Est pour les îles. Ben, en fait, non, c'est pas tant. Ah, OK, oui. Deux points, mais Tampa Bay a 2 matchs en main sur Ottawa.
Oui, puis tu regardes les équipes qui sont devant. Puis l'autre chose, c'est qu'à un moment donné, le joueur va aller voir l'organisation et dire, écoute, là, moi, là, je veux gagner. Bougez-moi. Puis là, ben, les sénateurs vont dire, écoute, nous, là, est-ce qu'on pense qu'à moyen terme, là, on peut faire quelque chose avec cette équipe-là? Est-ce qu'il nous manque un peu de profondeur? Est-ce qu'il nous manque des gardiens de but? Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose qui pourrait peut-être nous améliorer à moyen terme avec ce joueur-là? Moi, je pense que c'est ce qui va arriver. C'est pas ce que je souhaite. Puis je dis pas que c'est certain que ça va arriver. Mais, tu sais, comme dans la musique de jazz, quand tu sens, là, de la musique qui t'annonce que le requin s'en vient, là, ben là, il commence à y avoir des petits dribbles ici, là, à gauche, à droite. Il y a des informations qui sont données aux des journalistes à mots couverts, des sources qui sont pas dévoilées. Moi, je commence à trouver que ça sent pas bon pour les partisans. Malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que c'est un fabuleux joueur de hockey.
Non, et là, tu l'as, ton gardien. Tu sais, t'es allé faire des transactions. D'ailleurs, je voyais Jacob Chychrun jouer hier. Là. Aïe, aïe, aïe. Écoute, on s'en reparlera de ce qui se passe à Ottawa. Il faut parler de... Tu veux parler des Chiefs? Ça me fait jamais tant plaisir de parler des Chiefs, mais cette semaine, moi, je les ai pris pour perdre. C'est rare que je les prends pour perdre, malgré tout. Mais je pense que cette semaine, ça se passe encore. Ils vont tomber avec 2 défaites.
Les Chargers sont une bonne équipe. Les Chargers ont une des meilleures défensives de la Ligue. Les Chargers ont un différentiel de 72. Ils ont donné 188 points. Les Chargers ne sont pas encore assurés d'avoir une place en série, même s'ils vont probablement l'être. Mais mathématiquement, ils ne sont pas assurés. Le match est à Kansas City, mais Jim Harbaugh, on le connaît, il va être prêt pour ce match-là. Justin Herbert va être prêt pour ce match-là. Moi, je pense que s'il y a un match, et on le dit depuis plusieurs semaines, Greg, les Chiefs jouent avec le feu. Moi, je pense qu'ils pourraient se brûler. C'est un match dimanche soir, 8h30. C'est le seul match à la télévision. Tout le monde va regarder ça. Les Chargers vont être motivés. Jim Harbaugh va être motivé. Je pense que c'est ce soir que ça pourrait se passer et je pense que la chaîne pourrait débarquer des Chiefs. Ils vont aller en série, ils vont peut-être aller en finale de l'association américaine. Je pense qu'ils vont perdre contre les Bills en bout de ligne. Puis je veux pas te faire de la peine parce que oui, je pense que les Ravens sont bons, mais ils sont pas bons comme les Bills. Mais je pense que c'est ce soir que ça va se passer pour les Chiefs.
Ça a fini combien le dernier match entre les Ravens et les Bills?
Tu peux pas me le dire, toi?
35-10 Ravens.
Ouais.
Ce sera tout, Eric, pour ce matin.
Depuis ce temps-là, les Bills, vraiment, là, m'impressionnent.
Effectivement. M'impressionne également. T'as tout à fait raison.
On va regarder ça avec beaucoup d'attention parce que j'aime pas comment les Chiefs gagnent tous leurs matchs cette année ou que les équipes perdent face aux Chiefs, plutôt, là, parce qu'il y en a que c'est de l'autodestruction face aux Chiefs. Ça reste que Patrick Mahomes, c'est un écart arrière extraordinaire. Il n'enlève rien. Mais on va voir ce soir. Moi, je pense que ce soir, les Chargers pourraient enfin brûler les Chiefs.
De la neige, du football, c'est ce qu'on aime dans les dimanches du mois de décembre avec un petit peu de préparation là, des repas de la semaine. Là. Ça, c'est une journée, comme l'appellerait Gilbert Delorme, parfaite. Et un autre qui est parfait, c'est toi, mon Eric. Merci, mon chum. On se reparle dans deux semaines, mon ami.
Ouais.
Je te laisse au bon soin de FX et Oli pour le week-end prochain. Et déjà hâte de te reparler.
Je te souhaite de belles vacances. Recharge tes batteries. Denver est une très belle ville.
Merci, j'ai hâte qu'on puisse échanger là-dessus. J'ai hâte de visiter celle-ci. Merci, mon chum.
Salut, mon ami. Salut, Olivier. Salut à tous les auditeurs. Bon dimanche.
D'ailleurs, il est là en studio. FX Bénard, au retour de la pause dans deux minutes. On analyse ce match, cette défaite du Canadien. Après avoir mené 2-0 contre une des meilleures formations de la Ligue nationale, les Capitals de Washington, j'espère qu'on a pris des notes du côté du Canadien parce qu'il y en avait des notes à prendre.